marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Le thème de nos rediffusions cette semaine, des arts.
La radiodiffusion française vous invite à écouter.
La photographie est une découverte merveilleuse.
La République des premiers photographes.
La photographie est une découverte merveilleuse. Cette photographie qui, avec l'électricité appliquée et le chloroforme, fait de notre 19e siècle le plus grand de tous les siècles, cette surnaturelle photographie est exercée chaque jour, dans chaque maison, par le premier venu et le dernier aussi, car elle a ouvert un rendez-vous général à tous les fruits secs de toutes les carrières. La théorie photographique s'apprend en une heure, les premières notions de pratique en une journée. Voilà ce qui s'apprend, aussi facilement que j'ai l'honneur de vous l'exposer.
Félix Nadar force le trait peut-être en caricaturiste qu'il est demeuré, mais il est lui-même l'exemple vivant de ce qu'il avance. Il s'est converti à la photo sur le tard en 1854, alors que la vente des appareils ne cessait de progresser. Il a tout appris en avançant. On présente toujours Nadar comme quelqu'un qui apporte la contradiction, un opposant né, pas bien cohérent. Mais c'est d'abord un républicain. Il est soucieux de l'élargissement des connaissances comme de l'élargissement du public. Si on voulait simplifier, on dirait que le portrait peint, par exemple Monsieur Bertin, propriétaire du journal des débats par Ingres, symbolise le suffrage censitaire, réservé aux plus riches, et que le portrait photographique correspond au temps du suffrage universel. Certes, Nadar s'est attelé, à photographier toutes les célébrités de l'époque. On lui répétait tellement qu'il tenait là une fortune. Mais l'image photographique à ses débuts avait souvent montré des visages plus cachés, issus du peuple. Le premier portrait daguerréotype maintenant identifié et qui date de 1837 représente d'ailleurs un homme jeune qui n'a ni jabot noué, ni cheveux coiffés. Olivier Hill nous racontera comment il l'a identifié. C'est un rapin socialiste. Et 11 ans plus tard, en juin 1848, la première photo qu'on dirait aujourd'hui de reportage fixe le souvenir des barricades de Paris insurgées. Et elle est l'œuvre d'un républicain, bien sûr. Bon, on ne va pas chercher ici à contredire le discours habituel qui insiste sur la protection de la photographie naissante par de nombreux notables et des institutions puissantes. Il n'empêche, une autre histoire politique de ses débuts peut être tentée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Olivier Hill, bonjour.
Bonjour.
Notre rendez-vous fait écho à une exposition qui a eu lieu l'automne dernier sur les Nadar. Je suis pas sûr d'ailleurs que cette exposition ait fait à la politique la même place que vous lui offrez dans deux ouvrages que nous allons présenter qui sont assez étonnants et que vous avez consacrés au primitif de la photographie. Vous-même, Olivier Hill, vous êtes chineur, vous achetez des photos.
Un peu, malheureusement, les prix sont devenus tellement exorbitants que l'exercice est de plus en plus délicat.
Ouais. Vous cherchez dans la photo une objectivité qui est impossible à trouver quand on est professeur d'histoire, quand on est professeur d'histoire politique, quand on est professeur de sociologie politique. Déjà, vous ne vous retrouvez pas dans vos qualificatifs.
Une objectivité, c'est-à-dire sans doute un rapport documentaire au passé, mais aussi, je dois l'avouer, un charme comme ça évanescent, celui d'un... au fond d'une magie qui a disparu, mais qui a tout de même émerveillé des générations entières.
Première étape, Daguerre. Enfin, le nom de Niepce va être prononcé fugitivement.
À la suite des premiers travaux de Niepce sur la photographie, Daguerre, dans une lettre que possède aujourd'hui le prince de Broglie, communiquait à Arago le principe d'un nouveau procédé de fixation des images. Voici le premier daguerréotype, le portrait de Daguerre par lui-même, réalisé grâce à ses quelques flacons et à ses instruments à l'aspect suranné. Personne ne crut à l'époque à l'importance de l'étape que Daguerre faisait franchir à la photographie. Et Daumier, avec beaucoup d'autres, ridiculisait à loisir ce qui paraissait être la marotte du moment. Mais la photo, elle, se moquait des railleurs.
Vous voyez, le prince de Broglie est cité. Une exposition à Chantilly présente la collection du duc d'Aumale. Oui, mais vous, vous prenez l'histoire de la photographie autrement. 1837, le premier portrait de Daguerre. Il n'a jamais été revendiqué par Daguerre. Il a été acheté au Puce de Vanves par un collectionneur plus heureux que vous.
Oui,
en 1988. Ouais, rendu public en 1998. Tentative de description d'une photo à la radio.
Exercice délicat là aussi. Mais tout de même, on voit le visage assez fermé d'un homme de 40 ans. La lumière est tamisée. Daguerre a dû utiliser un écran bleu. Comme l'intensité du soleil en ce petit matin était très forte, il a fallu éviter, le temps de pause assez long, que le sujet, le modèle, ne cligne des yeux. Et donc une couleur bleue devenue verte avec le temps nimbe tout ce paysage qui est au fond ce visage. Et puis on découvre un habit, celui, une cravate aussi, tout à fait caractéristique d'un rapin, d'un homme sans le sou. On découvrira plus tard que c'est un garçon d'atelier. Et l'on comprend comment ses cheveux en désordre, ses sourcils très hauts, ce visage assez mince, cet œil un peu, comment dire, défiant, eh bien, rapporte toute une histoire, malheureusement ensevelie, et que le livre précisément tente de restituer.
C'est un livre aux éditions du Croquant.
Exactement.
Le premier portrait photographique. On est où ?
On est dans les catacombes du Muséum d'Histoire Naturelle, dans une salle qui conserve des coquillages et des fossiles. Et Daguerre, en ce petit matin, va faire coup double, puisqu'il fera également la photographie de ces pièces antiques, et par là même contribuera à, en quelque sorte, une histoire de l'art.
Garçon d'atelier de Daguerre, le nommé Huet, Jean-Baptiste, dit Constant. Il y a marqué le nom, Monsieur Huet, au dos de la photo, appartient à une famille très liée au muséum, avec des fortunes diverses, une famille de peintres et de dessinateurs naturalistes d'animaux, qui travaillent pour les savants du muséum. Pourquoi Daguerre va-t-il cacher sous le tapis cette photographie qui ne réapparaîtra qu'au XXe siècle ?
C'est une longue histoire, mais pour aller vite, trois éléments peuvent expliquer cette dérobade, au fond. D'abord, une brouille entre Jean-Baptiste Huet et Louis Daguerre. Une brouille politique. Après 1848, Daguerre a pris peur et va évoluer politiquement vers des idées monarchistes. Il fuit d'ailleurs la capitale et se réfugie à tous les sens du mot dans cette espèce de vision passéiste de l'histoire. Huet, lui, évolue vers un socialisme de plus en plus affirmé, et c'est un premier motif de brouille. L'autre élément, c'est évidemment la discorde qui est née de l'incendie du diorama.
C'est ce que c'est le diorama.
Le diorama, c'est la maison de spectacle que Daguerre a fondée en 1822 et qui disparaît au printemps 1839.
Ce qui est bien dans vos enquêtes extrêmement fouillées, c'est que vous en arrivez presque à prouver que Daguerre est un escroc, qu'il a allumé l'incendie du diorama pour toucher l'assurance, et que Huet en est très mécontent parce que lui, il connaît le pot aux roses.
Il connaît le pot aux roses et sans doute même y a-t-il participé. Ah. Il est vrai qu'il existe, Jean Lebrun, un dossier d'assurance, mais aussi un dossier de police aux archives de la préfecture de police de Paris qui apporte des preuves. Et il faut bien à l'historien se rallier à la vérité telle qu'elle apparaît dans les archives.
Et le troisième motif ?
Et le troisième motif, c'est une brouille sans doute liée à la manière dont Daguerre a congédié son personnel après la fin de l'aventure du diorama. Et il y a sans doute quelque chose de l'ordre de dette non au fond exaucé ou non payé, qui vient alimenter cette espèce de défiance.
Les convictions politiques et la lutte des classes à l'intérieur de l'histoire de la photographie. La photographie va se généraliser très rapidement. On sait, puisque vous avez tous les documents en main, combien il y avait d'appareils à photographier vendus autour de 1840 ?
Alors, entre 1839 et 1846, près de 2500 appareils ont été vendus. À Paris seulement, alors dans toute la France c'est un peu difficile à... Mais enfin on voit que très vite la mode a été prise et au fond les amateurs se multiplient pour tenter à leur tour, eh bien comme le disait Nadar, de se faire artiste en une heure ou deux.
La démocratisation. Deuxième étape dans notre histoire politique des primitifs de la photographie. Nous sommes maintenant en juin 1848. Voici un extrait de la série qui a été récemment proposée par France 2 sur le rapport de Victor Hugo et de la politique. En juin 48, quand monte l'émeute qui va amener beaucoup d'ouvriers parisiens sur les barricades, la voix de Victor Hugo n'est pas assez forte pour couvrir celle des barricadiers.
Alors c'est ça la République ? Taxer le peuple pour assurer la bourse ? Nous devons reprendre en main la révolution.
C'est ça !
Obtenir ce qu'on nous avait promis. Les coopératives de production soutenues par l'État qui nous rendent autonomes.
C'est ça !
Voilà ! La vraie démocratie, c'est à nous de la construire.
Nous devons réquisitionner les entreprises et abolir la propriété.
Vous devriez vous réjouir de l'issue de cette révolution. Au lieu de cela, vous ne pensez qu'à vous replonger dans la guerre.
Enfin, aujourd'hui, vous allez voter. C'est par votre vote que
on
vous pourrez
élire. On s'est battu pour ça et on continuera.
Voilà.
Formez les rangs. Nous sommes les représentants du peuple, missionnés par l'Assemblée nationale. Nous vous annonçons, le pouvoir exécutif a été confié au général Cavaignac. Il vient de décréter Paris en état de siège.
Nous, crève de faim. Guerre au risque et nous affronter.
Croisons la baïonnette.
Vous avez voté. Vous devez respecter les décisions de vos représentants. Le suffrage universel abolit le recours aux armes.
Feu, le général Lamoricière a fait charger ses troupes. 3 à 5 000 morts, 1500 fusillés pour l'exemple. Ensuite, et un document que vous analysez dans un autre livre, La barricade renversée, toujours aux éditions du Croquant, Olivier Hill. Nous sommes ce 25 juin 1848, rue du Faubourg du Temple. Tentative de description à la radio d'une photo.
Alors, il y a 3 clichés exactement, des daguerreotypes là encore, que le réalisateur, producteur de ces images, Charles-François Thibault, a mis en place. Il s'agit de cette rue, mais vue du haut de la barrière de Belleville, vers le canal Saint-Martin, et l'on découvre, en plongeant le regard dans cette rue, on découvre 3 barricades, l'une au croisement de la rue Saint-Maur, et 2 autres un petit peu plus bas, vers la cour des Miracles, et puis vers la rue Fontaine-au-Roi. Ces barricades porte l'histoire d'une résistance ouvrière, la lutte contre les ateliers nationaux, et montre aussi tout l'art très spécifique de ces insurgés, comment au fond ils ont réussi à élever des constructions.
Elles sont
pas très hautes, elles montent à 2 mètres, mais elles sont très larges, et elles sont très astucieusement construites, de telle sorte que lorsque des assauts sont produits, elles s'effondrent sur les assaillants.
Dans une rue donc tortueuse, difficile à contrôler. Alors, vous avez repéré une réclame. Alors, en fonction de la position de la réclame, vous avez pu retrouver l'immeuble d'où est prise la photo. Et vous savez maintenant que le photographe Thibault trouvait asile facilement dans cet immeuble parce qu'il était la propriété d'un nommé Pivert. Il y a d'ailleurs un passage Pivert maintenant à cet endroit. Et tout ça, c'était des républicains.
Et oui, toujours et encore. Jean-Pierre Pivert, fourriériste, a épousé une fille d'une grande famille de maraîchers, les Dulac, va s'enrichir et loge pendant ces mois le jeune Thibault. Il forme avec un autre, Testu de Beauregard, une sorte de phalange républicaine, d'ingénieur, amateur de progrès, socialiste, dans l'âme. Et il va donc donner asile au 92 du rue du Faubourg du Temple, à ce photographe, et lui permettre donc d'éterniser cette scène, celle de la barricade renversée.
C'est la fin de la République de Thibault.
C'est la fin de sa République, des espoirs qu'il a eus, d'une République sociale et démocratique. C'est la fin aussi d'un rêve, celui d'une réconciliation des milieux ouvriers avec cet idéal nouveau. C'est la fin, au fond, de beaucoup de choses, de sa jeunesse et de ses idéaux à la fois.
Mais d'un autre point de vue, celui du maintien de l'ordre, elle est intéressante, cette série de photos.
Oui, parce qu'on y découvre...
Sur la guerre de rue.
On y découvre, au fond, des techniques que le général Lamoricière importe d'Algérie, où il a fait régner l'ordre, un ordre impitoyable, notamment la technique des satrapes, comment on perce dans les murs des habitations pour pouvoir glisser des troupes d'assaut, pour pouvoir en quelque sorte contourner les barricades, car elles étaient très bien défendues. Ces insurgés étaient courageux et n'allaient pas hésiter à donner leur vie pour tenir le plus longtemps possible.
Alors sur la photo, il y a, dans une mansarde, Mimi Pinson qui fait signe au photographe.
Son prénom exact, c'était Pauline.
Pompon.
Pompon. Ouais. Elle a 26 ans, c'est une lingère. Elle connaît de toute évidence Charles-François, puisqu'elle reste plusieurs minutes en face de lui à tendre la main. On est au petit matin du 25 juin, il est 7h30. Et que s'est-il passé entre eux? Ah, là, l'historien est obligé de laisser place au romancier ou à l'imagination.
Oui, mais l'historien, il est déçu quand il s'aperçoit, voyant les papiers, que les républicains, Pivert, Thibault, sont morts enrichis.
Se sont effectivement détournés des idéaux de leur jeunesse, ont fait de beaux mariages. Charles-François est devenu directeur d'assurance, Pivert un spéculateur immobilier. Testu de Beauregard deviendra lui aussi un homme fortuné. Bref, ils auront préféré l'argent à leurs idées.
Quant à l'immeuble du 92 ou 97, il a été démoli par Pivert, qui a revendu l'espace. Oui. Ça s'appelle le bourrage de parcelles.
Exactement.
Les spéculations des Républicains. Vous me direz, c'est arrivé aussi à Pierre Dupont, dont on va entendre ici le chant des ouvriers. Il est mort passablement bonapartiste et rentier.
La lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ah, Pierre Dupont ici, interprété par Marc Augeret. C'était un ami de jeunesse de Bohème de Nadar, auquel on va en venir.
Numéro du dossier 16186. Cabinet du préfet de police. Rapport du 18 juin 1843. On signale le sieur Tournachon, ex-employé au journal Le Commerce. Comme un de ces êtres dangereux qui sèment les doctrines les plus subversives dans le quartier latin. Tournachon est de plus parvenu à capter la confiance de plusieurs élèves de l'école polytechnique, qu'il domine en quelque sorte, et dont il assure pouvoir disposer à jour fixe. On le surveille de près. Et le dossier Tournachon, dit Nadar, va gonfler,
Alors, nous apportons avec vous des compléments d'enquête, Olivier Hill, en insistant sur le parcours politique des primitifs de la photographie, et notamment de Nadar, qui est en même temps un photographe tardif.
C'est un photographe tardif, mais lui aussi...
Il a commencé à photographier après avoir fait...
Voilà, à partir de 1854, mais dès...
Tournachon, Tournadar.
Voilà. Mais dès sa jeunesse, lui, il goûte au lait du socialisme et de la République ardente, intrépide, puisque dans ce rapport que vous venez de lire ou faire lire,
43.
On voit comment déjà il est présenté comme un agitateur. Un autre rapport d'octobre 1842 dit de lui que c'est un séide des plus entreprenants de Monsieur de Lamennais. Félicité de Lamennais, le célèbre auteur des paroles d'un croyant.
Et dont il suivra l'enseignement en 48, quand il partira dans la Légion polonaise.
Exactement.
Pour l'indépendance, non pas du monde, mais de la Pologne.
Et héros des... buveurs d'eau, mais aussi des bohèmes du Paris qui rêvent, là aussi, d'un autre sort en matière politique.
Mais il est caricaturiste d'abord. Il dit d'ailleurs que le daguerréotype, c'est un peu comme de la caricature, parce que ça met l'accent sur un trait. Et il fait la première BD, Monsieur Réac. La vie privée et publique de Monsieur Réac. C'est un livre formidable, ça.
Complètement. Et on voit là le trait déjà mordant qui est le sien, sa capacité à fixer des idées parfois complexes en quelques contours, quelques traits de visage, quelques scènes cocasses. On voit aussi la férocité d'un genre, la caricature, qui prend vraiment parfaitement sa place dans les oppositions politiques. À l'époque, les leaders n'hésitent pas à financer des entreprises de propagande par la caricature, car c'est au fond un journal pour les analphabètes, une manière aisé de toucher le grand public, celui des faubourgs.
Alors c'est difficile de la faire de la caricature pendant l'Empire autoritaire. En 1854, il publie encore le fameux Panthéon de Nadar, où on voit des personnages indésirables, Lamennais justement, Victor Hugo. Est-ce que c'est parce que la caricature est devenue difficile qu'il est passé à la photo?
Probablement parce que le 23 février, effectivement 1854, lorsqu'il lance cette planche lithographique de 249 héros, poètes, hommes politiques, etc., littérateurs, il est obligé au fond de dire au revoir à la politique et la caricature de mœurs est un bon supplétif. La photographie va lui permettre d'espérer renouer avec le succès, cette fois commercial, financier, il a eu des déboires, et aussi de garder une certaine indépendance d'esprit. Il ne sera pas des soutiens de l'empereur, contrairement à certains de ses amis. Et la photographie est en quelque sorte un viatique, un radeau, une sorte de bouée qui lui permet de subvenir à ses besoins et de faire fortune.
Tout de même, Philippe Pong, qui était un grand caricaturiste et qui est devenu un actionnaire de la société de Nadar, lui dit « Photographie des célébrités, tu tiens une fortune entre tes mains si tu suis cette voie-là ».
Oui, et il a raison, car même s'il connaîtra des déboires, des hauts et des bas, c'est par ce moyen qu'il se fera un nom dans le Paris du Second Empire, qu'il restera comme une figure de la communication, une figure de la presse, une figure de l'inventivité, du progrès aussi, tout à fait considérable à l'échelle du siècle.
Alors le progrès, la photo à partie liée, dialogue avec toutes les innovations techniques. Par exemple, il y a des photographies des premières machines à vapeur au moment de leurs essais.
Oui, mais aussi des photographies embarquées dans les premières aventures d'une police scientifique et dès les années 1840 à Bruxelles puis à Paris cherche à prévenir la récidive, mais aussi sur le terrain de la médecine médico-légale, mais aussi sur le terrain évidemment des identifications judiciaires, la question des premières photographies signalétiques pour les passeports. Bref, la photographie est en lien avec tous les progrès qui, dans le monde de la police et le monde de la magistrature, s'emploient à la valoriser.
Et sur le terrain, mais est-ce que c'est le bon mot du ballon? Voilà qu'en 1863, il embarque, le cher Nadar, dans un ballon.
Vais-je pouvoir m'enlever seulement? La nacelle est vidée des meulières. Pendant qu'on la maintient sans peine, je la déménage du laboratoire, si précieusement installé, de la tente, de tout. Encore, bien qu'il fasse frais, je quitte mon paletot, que j'abandonne à terre, puis mon gilet, puis mes bottes, puis... Mais puis-je dire cela? Et comment le dire? Débarrassé de tout, je m'enlève enfin à 80 mètres environ. J'ai aussitôt ouvert et refermé mon objectif et je crie impatient « Descendez !» D'un bond, je saute dans l'auberge où, tout palpitant, je développe mon image. Bonheur, il y a quelque chose.
Enfin, quelque chose qui est un peu incertain.
Oui, incertain. D'ailleurs, cette expédition sera un échec. Il atterrit en catastrophe à Meaux et il est la risée de la presse qui trouve que tout de même, c'est pas bien glorieux. Il réessaiera quelques mois plus tard. Là, les choses se passent un peu mieux. Il va jusqu'en... en Hollande, comme on dit à l'époque, et il enfonce le clou et montre effectivement que le ballon est quelque chose qui a à voir avec la photographie, va permettre des vues aériennes somptueuses. Mais déjà, il pense à autre chose, c'est la théorie du plus lourd que l'air. Il pense déjà à des inventions qui permettraient de s'orienter, de guider ces embarcations, ces aéronefs dans les airs. Déjà, en quelque sorte, les hélicoptères et peut-être les avions sont dans son esprit.
Mais lecture politique... Il ne va pas photographier les transformations d'Haussmann.
Non, il s'en détourne, et là aussi, cette prudence témoigne sans doute de calcul ou d'un souci d'éviter des difficultés pour lui, car il va néanmoins utiliser le ballon pour aider Gambetta, on le sait, à franchir en 1870 les lignes prussiennes, à faire de l'envoi de colis postaux, à informer l'armée des dispositifs des troupes ennemies, mais... les transformations d'Haussmann, il les laisse de côté.
Il va en revanche photographier les catacombes, les souterrains.
Après le ciel, le sous-sol, il nous donne des aperçus vertigineux du Paris des catacombes, avec des scènes extraordinaires d'ouvriers qui travaillent la pierre. À l'éclairage électrique, il réalise des prouesses, car techniquement c'est tout de même merveilleux de réussir à fixer sur ces plaques ces images qui tout de même sont difficiles, sont même un peu parfois hagardes. Il y parvient et là aussi il apporte quelque chose à l'histoire de la photographie.
Alors Nadar va se brouiller avec son fils. Il y a beaucoup de brouilles hein, dans la famille Nadar. Les deux frères Nadar qui sont en procès à un moment,
Adrien.
La brouille du fils, c'est du père. Et il va s'installer dans le quartier Noailles à Marseille.
Voilà, il quitte...
Le quartier Noailles.
Il quitte sur la Canebière, il quitte son fils Paul, après qui s'est marié avec une femme qu'il n'aime pas, qu'il considère comme une aventurière. Et il va partir avec son épouse, Ernestine, qui est déjà frappée par la paralysie. Et pour l'aider d'ailleurs à affronter ces années qui sont difficiles pour elle, il s'établit sur la Canebière. Et là aussi, il ouvre un atelier qui fait succès, où il reprend son talent de photographe. Il finira au bout de 10 ans par revenir à Paris, comme si, au fond, c'était là que s'écrivait son histoire.
Mais enfin, est-ce qu'il a plus de liberté de reconstituer un milieu politique à Marseille qu'à Paris? Peut-être. Quand même, c'est gênant, votre lecture politique de l'histoire de la photographie, parce que nous laissons de côté complètement le lien de la photographie avec les notabilités. avec l'Institut, avec les sociétés savantes, avec, tenez, sous le Second Empire, la Société française de photographie, qui est passablement impériale.
Qui est impériale, qui combat le regard médisant, dédaigneux des apôtres de la peinture, mais qui ne parvient pas à renverser les barrières juridiques qui font de la photographie un exercice illégitime, accessoire, presque honteux. La photographie n'est pas considérée par les tribunaux français comme une œuvre d'art. Et elle ne peut donc pas tomber sous le coup de la loi 1793 qui protège la propriété intellectuelle. Donc, ces photographes sont pieds et mains liés, ne peuvent pas défendre leurs œuvres, ne peuvent pas en vivre. Et ce statut demeurera jusqu'à la fin du 19e siècle.
Méditation pour finir de Nadar sur ce qui ne s'apprend pas. On l'avait entendu au début de l'émission expliquer que c'était facile, la photographie, néanmoins, à l'expérience.
Ce qui ne s'apprend pas, je vais vous le dire, c'est le sentiment de la lumière. C'est l'application artistique des effets produits par les jours divers et combinés. C'est l'application de tels ou tels de ces effets selon la nature des physionomies qu'artistes vous avez à reproduire. Ce qui s'apprend beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet. C'est ce tact rapide qui vous met en communion avec le modèle. Vous le fait juger et diriger vers ses habitudes, dans ses idées, selon son caractère, et vous permet de donner, non pas banalement et au hasard, une indifférente reproduction plastique à la portée du dernier servant de laboratoire, mais la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime. C'est le côté psychologique de la photographie. Le mot ne me semble pas trop ambitieux.
Et vous, qu'est-ce que vous avez appris? Dans le maniement, dans l'observation, dans... Vous êtes perdu dans ces photographies. Le regard s'est perdu.
Le mot est fort, mais sans doute juste, si il veut dire qu'à un moment, je me suis retrouvé, grâce à cette perte des premiers moments. Car au fond, la photographie est cet exercice par lequel l'art est mis au service d'une vision... Nadar disait psychologique, on pourrait dire sociologique, nous, car c'est ça qu'il avait en tête. C'est-à-dire restituer ces visages qu'il photographie boulevard des Capucines ou bien rue Saint-Lazare dans ses ateliers successifs ou rue d'Anjou. Ces visages, il les restitue à leur environnement social, au réseau des amis disparus, à la dureté de la vie, à la gloire qui éteint ou qui menace les idéaux de jeunesse. Bref, il fait de ces témoignages un récit de vie en tant que tel. Et c'est bien l'art qu'il déploie, celui par lequel il domestique la lumière, pour en quelque sorte révéler les profondeurs d'une histoire biographique, celle des visages qu'il photographie.
Mais il n'hésite pas à parler de vérité, la vie dans toute sa complexité, matière et idée, tréfonds et surface, corps et âme, enfin, il donne à la photographie des ambitions que l'histoire ne peut avoir.
Que l'histoire ne peut avoir, sauf si elle rêve de science, car c'est une photographie scientifique qu'elle manie, mais se réconciliant avec les visées les plus hautes de l'art. Au fond, c'est peut-être ça, son utopie ou son idéal, réconcilier ses contraires bien faits. Il parvient du coup à une objectivité qui est en même temps merveilleuse, et qui va le porter jusqu'au bout, et on le voit notamment dans les pages fameuses qu'il laisse, de l'intimité dévoilée, de la lumière enfin souveraine. Bref, c'est cela, l'aventure photographique de Nadar.
Et l'aventure photographique de tous les primitifs dont on a trop brièvement parlé, c'est la recherche des visages de tous.
Complètement. Et cette démocratisation, c'est au fond le pendant du suffrage universel, permettre à tous ces visages qui n'avaient pas d'existence jusqu'alors d'accéder à l'espace public, celui de la République.
Vos deux livres récents, est-il encore nécessaire de les citer? C'est aux éditions du Croquant, Olivier Hill. Cette émission a été réalisée par Audrey Ripouille, avec à la technique Tiffany Battistel, Inka Nedulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard. L'équipe de La Marche de l'Histoire l'a préparée.